gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Toi qui nous écoutes sur l'antenne de Radio Canut, toujours et encore au 102.2 de la bande FM et sur radiocanut.org, partout ailleurs évidemment, c'est 22h et quelques grosses brouettes et c'est l'heure de la causerie donc. Alors ce soir dans les studios nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Et on peut dire un grand merci à Clara. Parce que c'est pas facile la technique ce soir, parce qu'on a tout oublié, les musiques, tout, il a tout fallu récupérer. Enfin bref, on vous le dit parce que franchement, on a un peu beaucoup merdé ce soir.
Voilà. C'est vrai.
Ah, je suis pas aidé. Hein.
Et nous donc. Et donc, il y a aussi Fa, pardon.
Ben bonsoir et bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Et donc, ce soir.
Une soirée électorale, évidemment. Non, je déconne.
Non, du tout. Alors, ce soir, on vous donnera tout sauf de l'élection. Donc, pour nous joindre, on va vous rappeler quand même vite fait, c'est à la causerie Canut, tout à attaché en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Vous nous trouvez aussi sur le blog de la causerie, c'est à blogs, c'est avec un S, c'est juste pour ça que je l'appuie, donc ouais. blogs.radiocanu.org/lacauserie ou dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez la causerie Radio Canu.
Et là, vous avez même trouvé des podcasts.
Et oui, c'est ça.
Ça,
et
c'est classe.
Et vous tomberez sur nous, forcément. Et on est aussi sur, oui, comme tu le disais, sur différentes plateformes de podcast. Et on est aussi sur un réseau socio-commercial. Voilà, toujours la causerie, Radio Canu, toujours en lien. Sinon, voilà, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui s'appellent la causerie.
Ah oui, oui.
Et ben voilà.
C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Hein.
Carrément. Et ben justement, vu qu'on ne parle pas élection ce soir, on va partir sur tout à fait autre chose. Et ce soir, Fab, il veut nous parler de la réalité vraie qui n'est pas vraiment vraie, même si c'est un peu vrai.
Eh ben oui, en fait, comme on ne parle pas d'élection, on va parler d'illusion.
Voilà. Ah ouais, c'est un peu pareil. Non
ouais, mais bon, voilà. Alors donc, prendre un petit peu de recul. Hein, on avait déjà en fait abordé dans la causerie plusieurs fois le fait que nos vies sont de plus en plus représentées par des photos et des vidéos filtrées. Alors c'est un petit peu, vous savez, le filtre, c'est la retouche automatique. Juste un rappel, retoucher, c'est un être humain qui s'y colle. Filtrer, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle, un programme, un algorithme qui transforme la photo. Voilà. Et c'est pas que dans le cinéma et la télévision, hein, ou la publicité, mais c'est bien dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire que dans nos vies de tous les jours, en fait, on est confronté à ces images retouchées. Déjà, en fait, par les nombreuses applications de partage sociaux, comme on dit, on doit les appeler comme ça maintenant, partage sociaux.
Ah ouais.
Voilà, en fait, c'est des réseaux sociaux commerciaux, hein, ça n'a pas changé. Hein. Donc, ça va d'Instagram à TikTok, des applications de rencontres aux applications pour se vendre au patronat. L'ensemble de ces outils utilisent des filtres photos et vidéos pour améliorer le visuel et le rendu de ce qui est proposé. Voilà. Et on passera là sur les sites de vente en ligne divers et variés, allant de l'appartement au doudou pour enfants, hein, qui utilisent exactement la même technique. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand vous uploadez, comme ils disent, donc vous envoyez une photo sur ces sites, il y a un temps de traitement. Parce qu'en fait, elles sont traitées, elles ne sont pas utilisées telles quelles. Parce que oui, sur tous ces sites et tous ces réseaux, en fait, vous ne voyez jamais ou extrêmement rarement des choses non filtrées ou non retouchées. Voilà. Et là, j'entends déjà dire, ben si, parce que moi, j'utilise mon appareil et je retouche jamais mes photos.
Ben si, parce que moi, je prends mon appareil, je retouche jamais mes photos.
Et en fait, parce qu'en fait, comme il n'était pas là, il n'a pas pu faire. Ben donc, enfin, bon. Et en fait, c'est des très graves erreurs en fait de penser ça. Hein. Les filtres photos ou outils de retouche automatique, en fait, aujourd'hui, ils sont intégrés dans les smartphones, mais aussi dans les appareils photos et les caméras. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont pas uniquement dans les smartphones, ils sont de partout. Donc, à partir du moment où vous utilisez vos appareils photos ou vos caméras en mode automatique, en réalité, il y a un des outils d'amélioration de l'image, c'est comme ça qu'en général ils s'appellent, et ce sont donc des filtres qui sont appliqués. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on estime, et ça c'est le MIT hein, qui a fait cette étude, que 99% des photos ou vidéos que nous regardons sont des fausses représentations de la réalité car elles sont retouchées à minima une fois. Voilà.
C'est énorme.
Moi, c'est-à-dire qu'il n'y a que 1% des photos qui correspondent au réel. Pour être beaucoup plus clair, on peut le faire dans l'autre sens. Voilà.
Oui, c'est là où c'est complètement ouf. Quoi.
Alors, un exemple. Hein. Vous prenez avec une photo avec votre smartphone dernier cri, un paysage, vous savez, lors d'un coucher de soleil. Bon, ça arrive régulièrement et on a tous envie de le faire. Hein. Quand on a de quoi prendre une photo, on voit un superbe coucher de soleil, on se dit tiens, je vais faire une belle photo. Et quand vous la regardez sur l'écran, bah, vous le trouvez encore plus sublime qu'en vrai, ce coucher de soleil. Et ça rend vachement bien, dis donc. Mais oh là là, dis donc, t'as vu les couleurs et tout. Eh bien, sachez en fait que via un programme proche d'une intelligence artificielle, en fait, qui sont en fait des algorithmes qui ont été entrés dans votre téléphone, votre photo a été retouchée. Les couleurs ont été ravivées, le contraste a été repensé et la profondeur de champ a été ajustée. C'est-à-dire qu'en fait, la photo que vous faites, elle n'est pas du tout ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'entre ce que vous pensiez prendre en photo et le résultat final, il s'est passé tout un tas de choses. Et tout ça, ça se fait sans que vous n'ayez rien demandé. Tout est transparent pour vous, c'est le logiciel embarqué de votre téléphone, de votre smartphone, qui a fait les choses. Et pas qu'un peu, hein, d'ailleurs. Hein. Certaines marques vont jusqu'à l'application de 22 couches de filtration avant rendu photographique. Donc, c'est énorme, 22 couches de filtration.
Hein. Oui, ça fait 22 étapes de modification potentielle.
C'est ça,
quoi.
C'est ça. Alors ça va de la luminosité à la granulométrie, à des choses comme ça. Voilà. Et en fait, 22 couches avant de vous donner la photo. Et d'ailleurs, quand vous prenez une photo avec un smartphone, ou d'ailleurs avec les appareils photo dernier cri, il y a écrit généralement amélioration de la prise de vue. Et quand vous voyez marqué amélioration de la prise de vue, en fait c'est l'application c'est un retraitement de ces fameux filtres. C'est-à-dire qu'en fait, qu'à l'issue du traitement, on peut estimer, alors surtout quand il y a 22 couches, que plus aucune couleur ou rendu n'est en fait naturel. Ça ne correspond plus en réalité à ce que vous vouliez capter. Alors ça ne veut pas dire que votre photo elle est pas viable, hein, parce qu'on sait bien que les photos depuis des années, quand elles sont publiées, elles sont retouchées. Ça veut juste dire qu'en fait, en réalité, on a intégré dans les outils de quoi en fait retoucher directement les photographies sans finalement que vous ayez votre mot à dire. Et c'est ça qui est un peu plus gênant.
Oui, c'est parce que j'ai eu la chance un jour de faire un petit stage photo avec un photographe et en fait il disait en fait il n'y a aucune photo qui est publiée qui ne soit pas passée par un logiciel. Et lui, il était spécialiste plus dans le sport, etc. Et en fait, il disait majoritairement, toutes les photos sont traitées.
Oui, sauf qu'elles le sont par un humain.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est consciemment que c'est changé.
Voilà. La différence, c'est que là, c'est inconscient et que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mmh. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir été un super bon photographe à ce moment-là. Alors, il en va de même avec les visages. Hein. Dès que vous pouvez prendre une photo de vous, hein, ce qu'on appelle un selfie, ou d'une personne, si vous prenez la photo du petit dernier qui vient de naître, la photo, elle va être optimisée. Et vous allez vous en rendre compte parce que fini les impuretés de peau, vous n'avez plus de boutons, plus rien sur le visage ou quasiment pas. Terminer les tâches, même les tâches de rousseur, d'ailleurs la plupart des gens roux s'en plaignent parce qu'en fait, ils ne ressortent pas. Oui, ça efface les tâches de rousseur. Donc en fait, il y a même une pétition qui était sortie à une époque de gens roux qui disait laissez-nous exister.
Oui, parce que c'est ça, parce que finalement, t'effaces carrément.
T'effaces même la particularité de la personne, c'est-à-dire que voilà. Donc ça efface les tâches, même les tâches de rousseur, et il y a un lissage des rides. Donc en réalité, en fait, les visages, et notamment votre visage qui ressort, n'est pas vous. Pour être très clair.
Bah, sauf quand on a une peau parfaite, un visage absolument parfait comme moi.
Ouais, mais ça n'existe pas.
Ah oui, c'est vrai. C'est ce que me rappelle tous les matins mon miroir.
Alors, si vous ne me croyez pas, faites un essai. Alors, ça ne marche pas avec tous les smartphones, ce que je vais dire, mais ça marche sur beaucoup de marques. Vous prenez en fait votre téléphone portable, votre smartphone, vous faites une première photo de n'importe quoi. Alors, essayez de prendre quelque chose qui est un peu coloré quand même, parce que sinon, on ne voit pas trop la différence. Puis, en fait, vous passez votre appareil photo en mode pro et vous prenez la même photo. Et vous comparez les deux. Et en fait, théoriquement, si votre smartphone est correctement configuré, le mode pro enlève tous les filtres. Vu que c'est censé être vous, qu'elle est retouchée la photo, c'est brut. Et normalement, la photo en mode pro ne ressemblera pas à la photo que vous avez prise avant, qui elle a été filtrée en automatique. Mmh. Et vous verrez que des fois il y a des sacrées différences, alors notamment quand vous prenez votre visage. Voilà, et la surprise, voilà. Ben alors, qui programme ces algorithmes de retouche, et surtout comment ça a été fait? Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que finalement, qu'il y ait des algorithmes de retouche, pourquoi pas? Mais il faudra essayer de comprendre comment ils ont été créés. Alors là, c'est le cœur du problème. Pour programmer en fait leurs algorithmes de retouche, les marques ont fait tourner une intelligence artificielle qui prenait en compte les photos les plus aimées sur Internet. Et cela pour calibrer au mieux les retouches automatiques. C'est-à-dire faire en sorte que la future photo que vous allez prendre corresponde au mieux aux photos les plus aimées sur Internet. Sauf que donc, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, vous voyez ? Les photos les plus aimées sur Internet deviennent la référence des futurs fils qui aideront à mettre en place les photos les plus aimées sur Internet. C'est un peu paradoxal quand même, quelque part. Mais en fait, on voit bien que bah, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs spécialistes qui disent que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des filtres qui vont de plus en plus loin.
Parce que mais il se base sur un truc qui est déjà touché au départ.
Donc ainsi de suite. Et c'est-à-dire qu'on fait de la retouche, de retouche, de retouche, de retouche. Et c'est pour ça que d'ailleurs les visages, notamment si vous suivez quelques Instagrammeurs ou Instagrammeuses qui se filment en direct avec des filtres, vous avez l'impression qu'ils ont tous la même tête. Parce qu'en fait, l'outil de correction les corrige comme le visage que apprécient le plus les gens. Donc ils se ressemblent tous.
Ah oui, et puis en plus ça fait, enfin.
Mais ça fait des têtes bizarres en plus.
Mais ça fait d'un truc tout lisse et tout, et tu dis.
Ah bah oui. Pas d'impureté.
Wow, c'est incroyable quoi.
Alors notons aussi un biais. Hein. Internet est plus utilisé en fait par les jeunes que par les plus anciens. Alors c'est de moins en moins vrai hein, parce qu'on arrive aujourd'hui à la 2e ou 3e génération qui est née avec Internet, donc ça devient moins vrai, mais ça reste vrai. Donc en fait les algorithmes ils correspondent plus au goût des plus jeunes que de la population en général. Donc ça crée une espèce de biais de. Comment dire, d'appréciation, vous voyez, du visuel. Alors, un exemple assez terrifiant, hein, mais je l'ai trouvé, je l'ai lu, donc je vous le livre. Lors de la guerre en Ukraine, hein, des personnes se sont servies de leur smartphone pour photographier des corps ou des personnes blessées ou des immeubles délabrés ou des choses comme ça pour témoigner.
Bombardés plutôt que délabrés.
Hein bombardés, pardon. Mais bon, délabrés au sens où ils étaient effondrés. Donc en fait, ils ont essayé pour témoigner. Et elles ont été très surprises de constater, alors c'était avec une marque en particulier, je vais pas la citer, on va pas faire de pub, hein, de constater que les photos obtenues étaient très très sombre et pour certaines elle virait presque au sépia, vous savez, comme les vieilles photos, voilà. Et ben en fait cela venait du fait que de l'activation en fait d'un outil de correction via intelligence artificielle, en réalité via des algorithmes hein, à l'intérieur de retouches qui avaient pour référence de ces images de guerre les images en noir et blanc. Donc quand la photo a été prise, et ben pour rendre la photo la plus viable possible, l'intelligence artificielle et l'algorithme s'est dit il faut que ça se rapproche des photos de la Seconde Guerre mondiale en noir et blanc.
Ouais. Ouais, mais même ça, enfin, pardon, t'as peut-être pas fini sur ce point-là.
Bah en fait, juste, je voulais dire, donc, l'algorithme, il tentait de rendre la photo la plus agréable possible en collant au standard, parce que c'est son boulot, l'algorithme. Donc, le bug, il a été rapidement corrigé. Je crois que ça a pris même pas 12 heures pour que ce soit corrigé. Il faut être très clair, parce qu'il y a eu des retours. Et puis, il faut pas oublier que toute photo que vous faites est envoyée, généralement, si vous avez donné l'autorisation, en base de données à la personne qui a produit votre smartphone pour l'amélioration des services. Mmh. Donc en fait ça a été repéré assez vite et le bug a été donc corrigé, mais on voit là une des limites claires de cet outil.
Mais oui, mais en même temps c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, il y a quand même eu un paquet de guerres, il y a encore un paquet de guerres, oui. Et il y a encore un paquet de photos qui sont faites à travers le monde, oui. Sur des lieux de guerre, en
oui,
fait.
Oui, mais la guerre la plus documentée sur Internet, c'est la Seconde Guerre mondiale, celle où on trouve le plus de documents. Donc, comme en fait l'intelligence artificielle,
ouais,
elle ne fait que compiler, elle a pas d'intelligence.
Oui, elle cherche pas à hiérarchiser, enfin, elle ne hiérarchise pas par la date, etc.
Elle va dire, par exemple, 70% des photos sont en noir et blanc, 70% des photos sont orientées comme ça. Il faisait plutôt gris, donc 70% des photos ont une teinte grise. Et ben donc, en fait, l'algorithme dit pour améliorer, parce que c'est l'idée, c'est d'améliorer. Il faut donc que ce soit plus sombre, plus gris, plus voilà, vous voyez, parce que
ouais,
vous voulez rendre ça beau.
Oui, c'est ouais, ça. Ouais, mais déjà rien que ça, c'est.
Bah oui, mais c'est son boulot à l'algorithme. Donc, oui, en fait, aujourd'hui, alors qu'on en a peur du métaverse, vous savez, on entend parler beaucoup du métaverse, où on va être envoyé dans un truc virtuel, machin et tout, bah en fait, on vit déjà un petit peu dans ce monde virtuel. Hein. Nous sommes déjà, en fait, dans un monde qui n'existe pas dès que nous avons le nez, enfin plutôt les yeux, rivés sur des écrans ou une diffusion vidéo. Je fais une parenthèse, la télévision est automatiquement filtrée. Depuis l'apparition des caméras HD, c'est-à-dire pour le fait que ce soit filmé en HD, en fait, les premières émissions HD on s'était rendu compte qu'on voyait tous les défauts. Mmh. C'est-à-dire la petite trace de maquillage qui était sur l'épaule du présentateur, le fait qu'il avait un peu des pattes de doigts, le fait que c'était la 12e émission qu'il enregistrait de la journée et que le maquillage n'était plus aussi évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour éviter ça, en fait, maintenant, il y a un filtre automatique qui lisse les choses. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les images de télévision HD se ressemblent. Parce qu'elles utilisent toutes quasiment le même filtre de lissage, ce qui fait que tous les animateurs et animatrices, vous avez l'impression qu'ils sont tous 15 ans de moins que leur âge, mais c'est parce qu'en fait leur visage est totalement lissé, ce n'est pas que le maquillage. Et nous avons, et d'ailleurs ça s'est vu, alors je fais une parenthèse parce que ça m'avait fait rire, ça s'est vu avec les premières télévisions de Bilal Hassani, qui est un jeune homme qui marche bien aujourd'hui et en fait quand il passait à la télé il le disait lui-même, il avait l'impression de reperdre 10 ans, mais comme il avait 19 ans ça lui faisait bizarre.
Ça faisait très jeune.
Voilà, en fait ça lui donnait une image très très jeune alors qu'en fait il était pas aussi jeune que ça, et ils ont été obligés de recalibrer, notamment pour les émissions qui filment des enfants ou des jeunes adultes, en fait ils ont été obligés de recalibrer les filtres parce qu'ils s'y tiraient
sinon
tellement
t'as l'impression d'avoir un
ça marchait pas bien, c'est-à-dire que le visage ressemblait plus à un être humain quoi, et ça c'est problématique, voilà. Donc nous avons déjà basculé en réalité de plein pied dans ce fameux métaverse, même si on n'y est pas de façon virtuelle avec un casque de réalité virtuelle, mais on y est parce qu'il nous est présenté une sorte de réalité alternative qui ressemble à la nôtre mais qui ne l'est pas vraiment vu qu'elle est entièrement filtrée et retouchée. Alors là, vous allez me dire, oui, pourquoi il parle de tout ça? Parce que c'est intéressant.
Conseil photo.
Voilà. Non, en fait, c'est que ça a des conséquences, en réalité. C'est ça qui...
Oui, parce que jusque-là, tu parlais de l'image de guerre, machin, un petit peu de gens, mais oui, c'est aussi, ça va plus loin, quoi.
En fait, il y a des conséquences à tout ça. Alors, le souci, c'est que, elles sont, en fait, largement amplifiées. Ces conséquences, elles se sont amplifiées pendant la période de confinement. Parce que comme on a passé énormément de temps sur des écrans dans cette période-là, forcément, en fait, on s'est rendu compte que, ça avait un effet encore plus important. Alors, je donne deux chiffres quand même, parce que je l'ai oublié de les noter, mais je les ai dans la tête. Pour les personnes de plus de 35 ans, on est passé de 2 heures devant un écran de smartphone à 4h30, 5 heures pendant le confinement. Et pour les personnes de moins de 35 ans, on est passé de 6 heures par jour devant un smartphone à plus de 10 heures par jour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation assez importante dans la période où les gens étaient confinés, ce qui est logique parce qu'on gardait le lien via les smartphones. Donc forcément, voilà. Enfin, via les smartphones, tablettes, ordinateurs.
Oui.
Et donc les périodes qu'on a passées donc étaient des périodes de longtemps devant les écrans. Alors oui, je sais, il y en a derrière le micro, ils vont dire oui, mais moi je le fais jamais. Oui, alors c'est une moyenne, hein. Donc oui.
Oui. Voilà. Oui, et puis aux intégristes d'autre chose que la télé et tout, rassurez-vous, pendant le confinement, on a vendu plus de livres aussi. Donc les gens n'étaient pas que devant l'ordinateur.
Tout va bien.
Tout va bien, votre pureté est sauve.
Donc d'abord, il est prouvé que chez les moins de 35 ans. L'effet dit se voir dans un miroir, c'est-à-dire juste se mettre devant un miroir, joue en fait à plein. Hein. On a en fait l'image de soi renvoyée par le miroir, elle n'est pas filtrée. Alors ça va loin, hein, parce qu'il y a même des marques qui proposent maintenant d'avoir des miroirs intelligents qui filtrent.
Hein. C'est sérieux?
Oui, notamment. Non, je ne vais pas donner de.
Non, pas de marque.
Pas de marque, mais bon, il y a une pomme dessus, donc je vais chercher. Voilà, donc en fait, il va exister des miroirs filtrants. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est là que ça devient grave. Hein. On voit qu'on tombe dans quelque chose de très très malsain. Mais donc votre image dans un miroir, elle n'est pas filtrée. Hein. Vous voyez tel que vous êtes, quand vous vous levez le matin, vous voyez encore plus comme vous êtes. En fait, c'est vous, point. En fait, un miroir, c'est vous, ça renvoie votre image. Et comme notre cerveau, en fait, est habitué à regarder des photos optimisées, même de nous-mêmes, parce que finalement, quand on fait des selfies, quand on se prend en photo soi-même, c'est optimisé. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir un visage qui n'est pas celui qui est sur les smartphones, les écrans et tout ça. Beaucoup de gens se sentent de plus en plus mal en se voyant tels qu'ils sont dans un miroir, tout simplement. Et attention, hein, c'est une impression. Rien de plus, hein, vous n'êtes pas moche en réalité. Hein. C'est juste qu'en fait, votre image du miroir, elle est naturelle, c'est vous. Et en fait, votre image sur les smartphones, les écrans et tout, n'existe pas.
Oui, c'est celle-là
qui est problématique.
En fait.
Celle qui est dans le miroir, c'est vous. Et vous n'êtes pas moche. Mmh. Ça, c'est dans votre tête. Mais je dis ça parce que même moi, des fois, ça a pu m'arriver de me dire. J'ai une sale gueule dans ma main. Voilà, mais et ça m'arrive encore.
Mais on est humain.
Mais
enfin,
on est humain. Sauf que ça amplifie ça parce que justement il y a cet effet-là, voilà. Et donc c'est bien un jeu des algorithmes qui retouche et qui nous entraîne finalement dans cet état d'esprit. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on voit bien un petit peu vers quoi on va. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien parce qu'en fait ils vivent uniquement ou majoritairement à travers les écrans et que donc du coup ils ont plus de mal à s'appréhender eux-mêmes.
Et ça, c'est-à-dire que tu te préfères dans ton image retouchée
virtuelle
dans La réalité, quoi.
Enfin, c'est ça.
C'est triste. Hein.
Alors, autre point, le maquillage, hein, qui était avant plutôt orienté vers une baisse, parce qu'on vous savez, il y avait
de consommation,
de consommation et d'utilisation. Okay. Vous vous souvenez pas, il y avait L'Oréal et compagnie qui avaient fait des grands trucs en disant, oh là là, on avait moins 30%, les jeunes se maquillent plus, tout ça, vous voyez. Et ben, en fait, c'est reparti à la hausse, hein, et comme rarement. Alors, j'ai pas eu les derniers chiffres, mais je sais qu'en 2021, pourtant période de confinement, le maquillage a vu ses chiffres augmenter de 17%. Donc on se maquille pour soi, hein. On se maquille toujours pour soi au départ, mais quand même c'est symptomatique, vous voyez, c'est plus on passait de temps sur les écrans, ouais. Plus le maquillage a augmenté, ouais. Donc on voit qu'il y a un lien. Et le but est aujourd'hui de se filtrer le visage à coup de maquillage. Il y a plein de tutos sur internet où on vous apprend à ressembler au filtre machin. Vous voyez, ah oui. En vous maquillant comme le
comme
filtre
ça, t'as
truc.
Plus besoin d'utiliser un filtre.
Non, c'est surtout que tu ressembles.
Mais tu
à ce
te
que
filtres
que
toi-même avec ton maquillage. Quoi.
Bah, c'est surtout que tu ressembles à ce que tu
oui,
es virtuellement.
Oui,
sauf qu'en fait, dans la vraie vie, on n'est pas censé ressembler à ce truc-là, lissé, bizarre, machin et tout. Donc c'est pour ça que le maquillage a tendance à plus se voir aujourd'hui. Et attention, ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes qui aujourd'hui se maquillent de plus en plus. Et j'ai strictement rien contre ça. Hein. C'est pas du tout mon problème. Non. C'est juste que c'est la raison pour laquelle on le fait qui peut sembler un peu paradoxal et un peu problématique, c'est le fait que bah, le maquillage va se retrouver à devenir un outil pour se masquer complètement, enfin pour disparaître de complètement. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est de se reprocher du côté factice et de se filtrer. Hein, donc c'est ça dans la vie. C'est un peu étrange. Et on a tendance à trouver ça joli, évidemment, et même à corriger cela automatiquement dans nos cerveaux parce qu'on est tout le temps habitué à voir ces images-là pour un rendu final entre guillemets acceptable ou non quoi. Donc voilà. Un collectif d'artistes new-yorkaises, alors c'est donc des femmes, hein, c'est pour ça que j'ai dit new-yorkaises, avait fait une expérience, elle soulignait les points d'ancrage du visage. Alors les points d'ancrage, c'est les endroits qu'on regarde pour reconnaître quelqu'un. Quand vous regardez le visage de quelqu'un, en fait, en réalité, on regarde 5 points sur le visage, et c'est comme ça que notre cerveau sait à peu près qui vous êtes ou si vous connaissez ou pas la personne. Sauf que c'est des points qu'on regarde tout le temps. Et donc, elles avaient fait ça de façon très absurde, avec des couleurs très vives, des traits, des choses très marquées. Et en interrogeant les gens, en fait, après ça, elles se sont rendues compte que ceux qui les regardaient, comprenaient cela car ils reconstruisaient une image à l'intérieur de leur cerveau qui n'était pas devant eux, mais qui correspondait en fait au filtre. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient ces gens qui étaient grimés, mais moi j'ai vu les photos, c'était surprenant, elles avaient des traits rouges, des flèches, des choses très 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 visibles, et en fait, en réalité, les gens reconstruisaient, et pas chez tout le monde, mais chez une large partie des gens, eh ben ils arrivaient par exemple à transformer des pommettes rouges façon poupée russe ou poupée, oui je suis poupée russe, le rond rouge, c'est des gens qui ont un visage qui va bien, elles sont en bonne santé. Sauf qu'en fait elles-mêmes elles disaient mais c'est hyper ridicule parce que c'était deux ronds rouges, un vrai rond rouge quoi. Enfin, et sauf que comme on est habitué à ça, et du coup comme on est habitué à ça, ça redonnait cette espèce d'idée ou de légitimité. Alors beaucoup de neuroscientifiques tirent la sonnette d'alarme hein, aujourd'hui. Si la plupart des gens savent encore à peu près se rendre compte du subterfuge des photos et des vidéos retouchées, il n'en est pas de même chez 20% de la population. Ça fait une personne sur 5, hein, c'est assez énorme. Hein, qui se repère, qui n'arrive plus à se repérer et qui est devant, en fait, eux, qui a devant eux ce qui est faux. Et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est faux. Donc pour eux, c'est vrai. Et donc, ça veut dire qu'il y a un cinquième de la population qui pense que quand ils voient une photo retouchée, elle est vraie. Sauf que c'est ce que disent les neuroscientifiques. Normalement, ces 20% de personnes, elles devraient au contraire savoir que c'est faux. Et ça entraîne que c'est chez ces personnes-là, c'est ce cinquième de la population, qu'on retrouve le plus de gens qui ont du mal-être social, de la dépression, du mal à aller vers les autres. Parce qu'en fait, ils se sentent extrêmement dévalués. Parce que oui, ce qui inquiète, c'est pas tant le taux de chirurgie esthétique chez les plus jeunes, parce qu'effectivement, il a explosé, mais ça c'est logique, ça va avec de pair avec une course à la beauté permanente. Hein. On est passé de 3% à 3% pour les moins de 25 ans, il y a recours à la chirurgie esthétique à plus de 30% aujourd'hui, toutes disciplines esthétiques confondues. Donc c'est assez énorme. Mais plutôt le pourquoi en fait on fait ces chirurgies esthétiques, pourquoi on se maquille comme ça, et ça c'est plus problématique. Et pour beaucoup d'observateurs de la société, la cause profonde est bien le manque de réalité sous les yeux des gens. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne voit plus le réel, on se noie dans l'irréel, en fait. Donc ça alerte en plus pour l'idée du métaverse, parce que je faisais une petite boutade tout à l'heure, mais il y a des spécialistes qui disent, mais alors qu'est-ce que ça va donner si on entre vraiment dans cette logique d'avoir des lunettes sur le nez en permanence, d'être projeté dans un monde virtuel permanent, d'être envoyé vers quelque chose qui n'existe pas en permanence. Vous voyez, c'est assez problématique. Alors vous allez me dire, mais ces gens, ils voient bien d'autres personnes en vrai dans la vie. Ah bah ouais. Ben oui, mais comme le souligne dans un rapport des neuropsychiatres suisses, quand on a en fait perdu la notion de soi, c'est-à-dire quand d'un seul coup on se dévalue en permanence, on a tendance à voir les autres comme parfaits et nous comme automatiquement laids, imparfaits, inutiles même à la société, et c'est ce qu'ils disent, voilà. Et ce, même dans une rame de métro par exemple, c'est ce qu'ils soulignent, il y a des gens qui rentrent dans la rame de métro, tous les autres sont beaux. Et eux, ils sont laids.
Ouais, c'est terrible.
En fait. Mais ça, c'est parce qu'on a perdu l'estime de soi. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il refuse de revenir à un réel et il vous enferme dans une case. Et c'est bien, en fait, un état d'esprit qui est induit, en fait, par ce bombardement de faux qui s'installe. Et il est donc très difficile pour ces personnes de revenir au réel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a même des cliniques qui commencent à ouvrir dans plein de pays pour réhabituer, en fait, au monde réel. Ça peut paraître très étrange ce que je dis. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, bah attendez, faut pas déconner. Et en fait, si, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin qu'on les réhabitue à voir le réel et à détecter le retoucher, le faux, le transformer. Alors, moi, bien sûr, moi je vois bien la solution très autoritaire, hein, parce que souvent on nous dit, bah il y a qu'à interdire les réseaux sociaux et puis tout ça. Non, en fait, ça résoudra pas notre problème. Faut être très clair, parce que on aura toujours un moment où cette problématique-là se posera. Donc en fait, face à ce problème, il faut une éducation de masse en fait qui va nous falloir aider à comprendre les limites du vrai et du faux. C'est ça en fait qu'il faut, c'est réapprendre. Alors par exemple, il y a des gens qui disent on ne fait plus d'art aujourd'hui à l'école. Or c'est justement dans les cours d'art qu'on apprend le vrai et le faux. Oui. Parce que c'est quand on vous montre un film et qu'on vous explique qu'il y a des effets spéciaux, que non, Brad Pitt n'a pas l'air d'avoir 30 ans alors qu'il en a plus de 50 et que, en fait, l'image est retouchée ou qu'il est maquillé, que vous pouvez plus facilement dresser votre cerveau, parce que je dis bien dresser au sens, pour reconnaître que, en fait, tout ça, c'est faux, donc ça va. Vous voyez? Et sauf que comme on fait plus ça à l'école ou quasiment plus, ou alors qu'on fait ça en dilettante, en réalité, ça manque parce que on n'a pas les outils pour s'atteler à repérer les choses qui nous paraissent trop grosses ou trop flagrantes. Et pour l'information, par exemple, c'est aujourd'hui très simple de retoucher une photo ou de faire une fausse vidéo. C'est extrêmement simple. Mais donc, il faut aussi là aussi apprendre à croiser les sources et à revenir à l'idée que ce qui est évident n'est pas forcément vrai. Vous voyez, c'est un peu le voilà, et que il faut croiser, vérifier, voilà tout ça. Et ça, on apprend un peu à le faire aujourd'hui parce qu'on fait du fact-checking, comme on dit, enfin de la vérification. Sauf que il faut le faire aussi pour les vidéos, les images, enfin tout en réalité. Pour ce qui est de la vie privée, il faut apprendre, que nous voyons, ce que nous voyons n'existe pas. Et que, personne ne peut avoir zéro bouton, aucun défaut sur le visage, la police, aucune ride à plus de 30 ans. Vous voyez, ça n'existe pas, ça. Et non, le petit dernier de votre meilleur ami n'a pas un visage d'angelot. Ça, c'est parce qu'en fait, le smartphone de votre meilleur ami en a fait un visage d'angelot, mais non, il peut être moche. Non, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les bébés, et d'ailleurs, c'est une réalité, tous les bébés pris en photo aujourd'hui quasiment se ressemblent, ceux qui sont pris avec les smartphones. Et c'est pas vrai. Quand vous allez dans une maternité, si vous regardez les enfants, ils se ressemblent pas. Non. Donc c'est bien qu'ils ont été retouchés à un moment donné. Et donc tous ces gens sont en fait assez banals. C'était pour rigoler que j'ai mis banaux. Comme moi, en fait. Je suis un mec très banal, et en fait, tout le monde est banal, c'est pas grave. Et c'est la vie. Et c'est bien d'être banal. De la banalité naît parfois la beauté. Alors, il faut pas douter du fait que si les multinationales de l'image et des réseaux sociaux ont mis en place ces filtres permanents, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils en tirent du fric. Sinon, ils l'auraient pas fait. Parce que ça leur a quand même coûté en recherche et développement, tout ça. Donc, s'ils se sont dit, on peut investir quelques milliards dans la recherche et développement là-dessus, c'est qu'ils allaient récupérer encore plus de milliards, sinon ils l'auraient pas fait. Et c'est là, en fait, que c'est vicieux. Selon une étude très récente, qui a été faite aux États-Unis, et notamment, sur la Silicon Valley, je vais accélérer, plus une personne est dans un environnement qu'elle juge beau et agréable, et plus cette personne a tendance à
Acheter.
Consommer. Eh oui. Donc voilà.
Dans un système capitaliste, souvent la finalité, c'est la consommation. Se situe là.
Alors peut-être que demain verrons-nous plus de photos réellement no filter, comme on dit, c'est-à-dire sans filtre. Alors même là, hein, souvent quand les gens affichent no filter, en réalité, ils ont oublié de désactiver les filtres automatiques de leur appareil photo, de téléphone, donc il est quand même filtré. Mais je crains que cela ne soit pas la norme. Hein. Alors nous devons donc nous résoudre à garder en tête que nous vivons au travers de nos écrans dans un monde virtuel qui n'existe pas réellement et ne pas se laisser gagner par l'envie de coller aux standards imposés par une industrie qui met clairement les moyens dans la manipulation de masse. En fait, c'est ça qui est important. Mais je ne vais pas dire le contraire, hein. C'est pas facile. Mmh. Je ne vais pas vous dire claquement de doigts et ça va se faire. Non, et ça va demander de l'éducation populaire et de l'éducation en général pour aller vers plus de prise en compte de tout ça. Et je suis bien conscient que ce que je dis ce soir, c'est pas demain matin que tout va aller mieux. Hein. Alors d'ici là, il nous faut renforcer notre vigilance collective envers les personnes notamment les plus fragilisées, celles qu'on sent un petit peu en perte, qui perdent pied, parce que cette situation les met vraiment mal à l'aise. Et les soutenir, car le mal-être va quand même souvent jusqu'au suicide et à la mutilation. Ah oui. Donc c'est pas non plus anodin. Donc,
non, ça n'est pas anodin.
Non, moi je le dis. Hein,
parce ouais, que... oui, non, oui.
Non, parce que souvent, moi j'ai vu des gens minimiser ça, en disant oh, bah, ça va, ils sont mal dans leur peau. C'est pas que être mal dans sa peau, ça va très loin. Donc voilà, faire attention. Mais une fois cela posé, hein, je suis certain d'une chose, plus nous serons à rappeler que nous avons 99% de choses fausses face à nous dans les vidéos et les photos que nous regardons devant les yeux, et plus nous avons de chances que l'influence de cet univers de faux diminue. Est-ce que je l'ai dit assez ou est-ce que je recommence?
Tu peux le redire.
Voilà, c'était mon sujet.
Soyons vigilants, vigilantes et.
Oui, c'est ça.
Et vérifions, etc. etc. Et ne nous.
Et nous ne nous faisons pas du mal,
oui, c'est ça.
À essayer de ressembler à tous ces gens magnifiques et beaux qu'on voit partout.
Mais qui n'existent pas vraiment.
Non,
en fait.
Non. Vous savez que parmi les émissions les plus retouchées à la télévision, c'est les émissions de télé-réalité. Contrairement à ce qu'on croit, elles donnent une image faussement prise sur le vif, sauf qu'en réalité, elles sont retouchées par plein d'outils qui font que les gens ont toujours l'air parfait, ils n'ont jamais rien qui ne va pas.
Ah bah, ils n'ont jamais de boutons, voilà. Ils n'ont jamais rien.
En fait, si, parce qu'ils sont déjà maquillés et en plus, il y a de la retouche vidéo.
C'est ça.
Voilà, n'oubliez jamais ça. Okay. Et dites-le à vos enfants.
Oui, aussi. Mais on parlait en fait.
Oui, parlez-en.
C'est pas forcément dire ne regarde plus ça, en fait, ça
non.
sert à rien.
C'est un vrai sujet.
Mais effectivement, interroger tout ça et que finalement, c'est pas non plus que les gamins qui sont pris par ce truc-là, en fait. Donc c'est aussi finalement avoir un échange entre individus, quel que soit l'âge, et s'interroger justement sur ces images qu'on peut se renvoyer, etc., etc.
Tout à fait. J'ai pris plein de temps, je suis désolé.
C'est pas grave. On passe à la musique.
Ouais.
Allez.
Couldn't be much more.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et on vient donc d'écouter le groupe Tulia, qui est un groupe polonais, qui reprenait, en chanson, Nothing Else Matters, voilà, qui est un titre très connu. Et je voulais m'excuser parce que pendant ma chronique, j'ai été un petit peu décontenancé. Il y a quelques affrontements autour de la radio, en lien avec la soirée électorale et nos amis des forces du désordre. Et donc voilà, du coup, ça m'a un petit peu décontenancé.
Oui,
je suis désolé.
On savait pas trop ce qui se passait, ouais. On entendait des bruits et bon.
Non, mais on savait pas
si c'était des fachos qui étaient en train de faire chier dans les rues, ouais. Mais là, ça sent plus à, bon, des fachos potentiels, mais en costume, donc c'est pas pareil. Ouais. Voilà!
Eh ben à toi.
Eh ben à moi.
Parce que justement, ladies.
Yeah.
With guns.
Ce soir, je vous cause d'une bande dessinée, Ladies with Guns, aux éditions d'Argo. C'est Olivier Bocquet qui est au scénario, Anne-Laure est au dessin et Elvire Decoq est aux couleurs. Alors, comme d'hab, avant d'en dire un peu plus sur la bande dessinée, je vais vous dire plutôt quelques mots sur les trois cités. Donc, Olivier Bocquet, hein, j'aime bien chercher un peu le parcours de chacun et celui d'Olivier Bocquet est particulier. Il est né en 76 et il a été alors pompiste sur l'A6. Il a été photographe événementiel, il a été gérant d'un restaurant à Montmartre, il a été colporteur, contrôleur facture chez EDF, assistant logistique à la caisse de dépôt et consignation, traducteur de modes d'emploi pour des grandes marques d'électroménager et sexeur de poussins. Alors, j'hésite à me dire... Il est peut-être un peu loufoque et genre il s'est inventé un truc ou alors juste bah il a eu vraiment ce parcours-là et je trouvais qu'il était tellement marquant que j'ai envie de le dire. Il a aussi écrit et ou réalisé en fait des programmes courts pour les chaînes jeunesse de la télévision française ainsi que des bandes annonces pour la télé et aussi un court métrage, quelques pubs et également des romans. En BD, hein, il a commencé avec La colère de Fantomas, ensuite avec Transperce-neige Terminus. Puis Aile froide, altitude 39-54, et chez Dupuis, il a créé la série Frank et aussi le triomphe de Zorglub. Voilà. Anne-Laure, quant à elle, elle est née en 78, elle a étudié aux arts décoratifs de Paris, d'où elle est sortie, diplômée en section animation. En 2001, elle réalise le court-métrage Qui veut du pâté de foie en volume animé stop motion et qui a été primé par de nombreux festivals. Elle travaille ensuite en tant qu'animatrice puis réalisatrice et c'est en 2010 qu'elle se tourne définitivement vers la bande dessinée avec la trilogie Les Innocents Coupables chez Bambou. Elle signe chez le même auditeur les diptyques Amère Russie, À coucher dehors et Camp Poutine. Récit hybride entre aventure et chronique sociale. Alors moi, je connaissais aucun de ces personnages, hein, mais vraiment, enfin.
De ces personnes.
Oui, de ces personnes, pardon.
Mais... Aucune de ces personnes.
Oui, mais je.
Personnages de BD.
Mais je, enfin vraiment, ça me donne envie de fouiller un peu plus dans ce qu'ils ont fait et dans ce qu'ils et elles ont fait. Et pour terminer, Elvire Decoq, hein, donc elle est de 79, elle entre en 98 à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles, qui est en fait une école d'art en section architecture, puis elle passe ensuite dans la filière bande dessinée en 2000 et elle obtient son diplôme en art visuel en 2003. Elle est scénariste d'une BD en 2010, elle sera dessinatrice d'une demi-douzaine de BD et coloriste enfin d'une vingtaine de BD dont Ladies with Guns. Eh ben, il est peut-être temps quand même que je vous parle de cette
mais
BD,
oui.
Hein, quand même.
Des alors, femmes et des flingues.
Ouais, c'est ça, c'est ça. On est plongé hein, dans l'Ouest américain, dans une période non définie, mais qu'on peut situer à la fin du 19e siècle. L'esclavage règne en maître, voilà le cadre. On suit une ado noire, Abigail, esclave, enfermée dans une cage en fer, qui fuit comme elle peut. Dans sa cage, hein. Attaquée par des loups en fait, qui seront mis en fuite par Caitlin, une bourgeoise blanche anglaise, veuve et aussi colon. Arrivera Shumani, une indienne, qui elle est isolée de sa tribu massacrée. Puis ce sera au tour de Miss McCormick, éleveuse, ancienne instite, de venir à la rescousse des trois cités précédemment, hein, qui sans le savoir permettra aussi à Cassie Coltrane, danseuse et prostituée dans un saloon, de se barrer. Forcément, une esclave en fuite, une indienne, une prostituée qui se barre, ne peuvent être laissées en paix.
dans tout ce qu'on vient de dire, c'est une suite logique. Hein. Il y a donc une foule de mecs, hein, allant d'un shérif complètement à la ramasse, et pas mal aviné, à un agent, au service d'un maître, d'un propriétaire d'esclaves, qui, avec son argent, forcément, trouvera d'autres bonhommes pour les aider dans leur chasse à l'homme, enfin, dans leur chasse aux femmes. Et tout cela est entrecoupé de flashbacks, de retours en arrière, hein, qui nous donnera des éclairages sur la vie, la condition sociale de chacune de ces 5 héroïnes et de tout ce qu'elles ont eu à vivre, tout ce qu'elles ont eu à faire pour arriver là où elles se retrouvent. On est donc là avec 5 personnages féminins venant de vie, de milieux tellement éloignés, voire totalement opposés, hein, quand même, soyons lucides, d'âges très différents, qui d'habitude sont mises au second plan, sont des seconds rôles, voire sont totalement invisibilisées, hein, parce que bon, femme, noire et esclave, c'est rarement un personnage central, hein, ou en tout cas premier. Et qui là, en fait, vont occuper le devant de la scène et seront 5 femmes, 5 héroïnes en quête de liberté, d'émancipation. Alors le tout, c'est dans un dessin hyper mouvementé, hyper vivant, avec les couleurs absolument magnifiques. Enfin, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et, enfin, ouais, c'est vraiment très joli. Ça va des effets quand ça bastonne à un ciel étoilé, etc. Je trouve que c'est vraiment super, super beau. Donc voilà. Et dans tout ça, il y a aussi de l'humour. Ça, forcément, moi, c'est toujours, enfin, ça me plaît toujours. On a aussi du trash, hein, dans les dessins. Moi, ça me rappelle beaucoup une série de BD dont je vous avais parlé. Enfin, ça remonte, mais en 2015, dans la 101e, c'était Apocalypse sur Carson City. Donc, Apocalypse Carson City, il y a des zombies et tout, mais on arrache des têtes, etc. Là, c'est un petit peu pareil, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une balle qui traverse une cervelle, bon, ben, on voit bien, quoi. Et donc, voilà. Et sans oublier aussi, en fait, tous ces sujets politiques, en fait, abordés, mais en filigrane. Enfin, on n'est pas dans une théorie, dans une thèse de quoi que ce soit. Mais c'est là, sans être appuyé, mais on sait où on est, quoi.
Bah, déjà, de ce que tu dis, t'as deux des personnages qui sont une native américaine et une esclave.
Oui.
On imagine bien qu'on peut. Enfin, j'espère qu'ils ne font pas le enfin, qui passe pas sur le génocide des natifs américains et sur l'esclavage. Enfin, ça fait partie
Oui, mais c'est encore une fois, c'est pas dit comme ça.
Non, non,
c'est
pas
dit. Mais c'est
pas.
Oui, c'est imbriqué. Je peux pas en dire. Ah, c'est ça.
Je veux dire, c'est pas Lucky Luke, quoi. Qui.
Dans les premiers
Lucky Luke, t'avais l'impression que tout allait bien. Après, il s'est plus politisé d'ailleurs.
Tu peux pas esquiver le fait. Et donc, c'est sujet politique. Hein, c'est l'esclavage, évidemment, le massacre des Indiens d'Amérique, ou encore l'émancipation, parce qu'il y a quelque chose quand même qui anime beaucoup ces 5 héroïnes, c'est cette soif de liberté, en fait, d'émancipation. Et on va aussi toucher du doigt cette entraide qui prend forme dès le début, en fait. Entre personnes très différentes, mais qui ont cette même soif de s'émanciper, de liberté et tout ça. Enfin bref. J'ai vraiment hâte, moi, de lire les 2 tomes suivants, parce que là, on est sur une série de BD qui sera sur 3 tomes, et de ce que j'ai entendu de l'auteur, enfin du scénariste, les deux suivants devraient être encore plus, enfin, seront vraiment with guns, quoi. Hein. Et j'espère vraiment, enfin, que vous aurez l'occasion de les lire et que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Encore une fois, on le précise aussi, si c'est le cas, si vous avez lu, même si ça vous plaît pas, hein, mais n'hésitez pas à nous faire des retours. Enfin, je trouve que c'est toujours un petit peu stimulant aussi de savoir ce que vous en pensez, etc. Et oui, voilà, donc tu l'as lu, Clara? Non, c'est tu.
Je sais. Oui, je l'ai lu.
Ouais, tu l'as lu. Ok. Oui, non, mais je vais pas t'en demander plus. Hein.
Est-ce que ça t'a plu? Moi, je t'en demande plus.
T'es curieux, toi.
Ouais,
oui, 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 ça m'a plu.
Et donc, bon, de toute façon, enfin, encore une fois, et puis là, on est vraiment sur un premier tome qui est plus une présentation des personnages.
Oui,
donc vraiment.
Quand on fait une trilogie, c'est souvent comme ça. Hein,
c'est voilà. Voilà. Mais on saisit déjà vraiment l'environnement social et tout de chacune de ces héroïnes. Donc, comme le disait l'auteur, la suite sera encore plus. Plus.
plus, quoi. Donc je rappelle, hein, c'est Ladies with Guns d'Olivier Bocquet, d'Anne-Laure et d'Elvire de Coq, et c'est aux éditions d'Argo. Voilà.
Ouais, on peut juste rappeler que si vous n'avez pas les moyens d'acheter de la BD, parce que c'est pas toujours donné.
Non, celle-là, je crois qu'elle est autour de 16 balles, mais ouais. Je comprends que c'est. Oui, c'est.
Non, mais c'est pas toujours donné. Alors, soit vous pouvez l'acheter en collectif, parce que des fois ça se fait aussi, hein, ouais. Vous l'achetez à plusieurs. Soit bah, aller dans les médiathèques, les bibliothèques, et puis commandez-la. Parce qu'en réalité, bah, je vous rappelle que la loi oblige un peu, entre guillemets, à ce qu'on donne accès à la culture. Et donc, tant que ça existe encore, profitons-en. Mais souvent, c'est même des fois, les gens des médiathèques ne connaissent pas. Et ça peut permettre d'ouvrir, en fait, une nouvelle forme de BD dans l'endroit.
Oui.
Et voilà, et c'est pas forcément.
Après, là, on est sur une grosse boîte d'édition d'Argos, quand même pas rien. Et puis après, quand même, pour un petit peu minimiser, mais mettre un petit peu de nuance, de bémol, c'est qu'il faut être quand même plusieurs à demander le même titre.
Oui, bien sûr.
S'ils vont pas commander.
Mais c'est pour ça que je mettais un pluriel dans le aller à.
Ouais, c'est ça. Donc,
le sens, si vous êtes 3-4 à vouloir la lire, vous allez devoir.
Faites passer le mot et on sera 15 à aller demander un bouquin. C'est et ça. Même si vous êtes un ou une derrière, finalement, à le prendre.
Ouais, je m'étais mal exprimé, mais c'était ça mon idée. C'était de passer et de dire vous auriez Lady Whisgun.
C'est ça. Donc, Lady Whisgun, je vous conseille vivement de le lire. Ça fait vraiment du bien, justement, que des personnages cherchent à s'émanciper et qu'on les enferme pas dans un rôle féminin, machin. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et ben, on passe à la zik. Ouais, on va passer à la zik.
Straight.
toujours à l'écoute de Radio Canu, évidemment, toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, c'est un plaisir que j'ai. C'est un nouveau titre de Chowski and Wood avec le titre Pier 28. Pierre 28. Vous trouverez
Pierre en P-I-E-R.
Ouais, P-I-E-R. Enfin, et moi, je suis absolument ravi. J'avais adoré le deuxième album de Chowski and Wood. Et là, c'est les prémices. Enfin, c'est l'annonce d'un nouvel album. Et j'aime beaucoup. Enfin, c'est très, très bon.
Ça va être bien.
Ouais, elle a une voix en plus absolument délicieuse. Et ben voilà, on va quelques brèves. Ouais, c'est ça, quelques brèves.
Et ben, je commence avec donc Femme en prison et violence de genre. C'est une rencontre avec Natacha Chedkuti Osorovitch, mardi 12 avril à la librairie La Griffe. Donc c'est une rencontre avec la sociologue autour de son dernier ouvrage, Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité. Et c'est à partir de 19h, mardi 12 avril, à La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e.
Et moi, je vous annonce quelque chose. Pour mercredi 13 avril, à la MJC Jean Masset, salle Rhizome, de 18h45 à 22h. Et là, c'est en fait Histoire de l'éducation populaire entre émancipation et récupération politique. Alors, je vous juste vite fait l'entrée, on va dire, de l'article, hein, c'est, enfin, de la soirée, c'est quel est le point commun entre une AMJC, une bourse du travail ou une fédération de scoutisme? Le temps d'une soirée, nous vous proposons à travers des échanges, des débats, des outils et supports de pédagogie active d'étudier son histoire, vieille de plus de 2 siècles, riche d'une multitude d'acteurs et d'actrices, d'expériences, d'institutions, de réussites et d'échecs. Donc je rappelle, hein, enfin, et puis l'éducation populaire c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est mercredi 13 avril à la MJC Jean Massé, salle Rhizome, de 18h45 à 22h. C'est entrée gratuite et boissons et nourriture sur place. Voilà.
Et c'est à moi.
Oui, c'est à toi.
Alors le 14 avril 2022, vous pourrez aller aussi entendre parler de Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états. Et j'ai mon téléphone qui vient de se fermer, c'est pas très pratique. Alors je vais vous lire, pardon. Nous croyons que l'histoire peut être un outil d'émancipation et de résistance, le tremplin d'un rapport critique au monde. Ainsi, nous vous proposons un cycle d'arpentage, lecture collective, sur des livres d'histoire. Commençons à la préhistoire avec Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états, par James C. Scott, fresque omnivore et iconoclaste qui révolutionne nos connaissances sur l'évolution de l'humanité et sur ce que Rousseau appelait l'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes. Voilà. Et donc, c'est jeudi 14 avril de 18h30 à 21h30 à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe.
Voilà. Et dernier rendez-vous qu'on vous donne, et pas des moindres, perso, ça fait quelques années que j'attendais de les voir en concert, et ben c'est un concert de Dubamix avec... et camarades, donc il y aura 2 chanteurs en plus, l'inconsolable et un autre chanteur que j'ai oublié, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. En tout cas, ils sont.
C'est pas Daman ?
Non, c'est pas Daman. Ils sont aussi sur l'album, justement, le dernier album qui s'appelle Camarades, et où il y a plusieurs artistes, dont l'inconsolable et plein d'autres. Et donc là, il y aura 2 artistes en plus de Dubamix, et c'est donc aux Valseuses. C'est sur les Pentes, si je me plante pas. C'est vendredi 15 avril. À partir de 20h jusqu'à 1h du mat. Donc je ne sais pas exactement quand commencera le concert de Dubamix, mais voilà, ça devrait être sympa.
Quelque part par là.
Voilà, c'est ça. et puis le dernier rendez-vous, c'est dimanche prochain, évidemment.
À 22h.
22h, 23h sur l'antenne de Radio Canu.
Bah oui, c'est la causerie.
À l'écoute de la causerie. Ouais.
Avant qu'on se quitte, moi je voulais juste dire une chose, parce que je sais que la soirée n'est pas forcément marrante pour tout le monde, mais juste rappeler une chose, c'est que c'est dans l'adversité qu'on est les meilleurs, et c'est là qu'il faut avoir de l'espoir, et sûrement pas quand tout va bien. Voilà.
Eh ben, dites-moi, c'est le cercle des poètes disparus.
J'avoue que j'ai un peu piqué cette phrase à Mirbeau. Mais bon, c'est pas grave.
Voilà. Et donc,
enfin,
voilà.
Je l'ai réécrite un peu quand même.
Je réfléchis à ta phrase en fait. Il peut se faire aussi de belles choses dans la solidarité.
Mais bien
ça,
sûr, ouais. Mais c'est là qu'il faut la mettre en œuvre.
Oui. Voilà. En tout cas, ouais, enfin bref. Voilà, on pourrait philosopher encore longtemps, mais on va pas faire ça. On va plutôt annoncer le dernier titre et puis laisser l'antenne aux bandes continuer ensuite. Et c'est Clara qui fait ça.
Oui, et on se quitte avec Lindsay Stirling et le titre Roundtable Rival.
Ok. Pardon.
Pourquoi ça te fait comme ça?
Non, je sais pas.
Je suis sur le concert que j'ai annoncé et que j'aurais dû laisser à Clara. C'est tout. C'est une blague privée.
Ah.
Du bas mix.
Ah.
Pardon.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'y pensais. Ah ben voilà, on se lâche.
Oui, on se lâche, pardon. C'est qu'il est l'heure de vous laisser. On vous souhaite une bonne soirée,
oui.
Bonne semaine, bon courage pour celle qui vient.
Plein de courage.
Et puis à dimanche prochain, au plus tard. Ouais. On vous souhaite plein de bonnes choses. Des bisous.
Et on fait des bisous.
Ciao.
Ciao.